Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sortez, votre émission quotidienne culturelle et sociale. Aujourd'hui, nous allons parler de Ohé du bateau et pour en parler, je reçois Kevin et Nora. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs.
Moi, je m'appelle Nora, j'ai rejoint l'aventure Ohé du bateau lors de la dernière Assemblée Générale en intégrant le conseil d'administration et très rapidement le labo Vie Coopérative.
Moi, c'est Kevin, je suis graphiste de profession, j'ai rejoint le collectif un peu de temps après sa création, il y a 6 ans, et j'ai continué l'aventure jusqu'à la création de la coopérative aujourd'hui.
Pour parler de Ohé du bateau, il faut d'abord parler du bateau ivre, on peut rappeler un peu l'histoire de la salle ?
On laisse l'ancien parler de l'histoire.
Merci, la jeune. Le bateau ivre, c'est une belle salle de Tours qui est restée dans le cœur de pas mal de Tourangeaux. Qui a été fermé pour cause de prise en retraite de Gisèle, l'ancienne propriétaire. Ce bateau a vu nombre d'artistes locaux, nationaux, voire internationaux. De très bons moments partagés par beaucoup de Tourangeaux, d'où cet affect important. Le collectif s'est monté lorsque Gisèle a commencé à dire qu'elle voulait prendre sa retraite, bien logiquement. Franck Mouget a été l'instigateur de cette volonté de réfléchir à comment ne pas laisser partir cette salle. Pas mal de gens l'ont très vite rejoint pour inventer quelque chose. Ça coïncidait avec l'envie de pas mal de monde d'essayer de se réapproprier la culture, une vie, une certaine vie sociale, une certaine, un certain échange en fait qu'on avait plus ou moins perdu et un vide laissé pour pas mal de petits groupes, de petites compagnies qui avaient plus le choix, qui trouvaient plus de manière de se diffuser entre le café, la terrasse de café et puis la salle qui était la grande salle qui n'était pas forcément ouverte pour eux. Tours est une belle salle avec de beaux équipements culturels comme on dit, malgré tout ça reste des chapelles, soit on fait du théâtre et on est programmé dans cette salle de théâtre qui a un bel écrin, l'Olympia, les musiques actuelles avec le temps machine, etc. Mais rien pour mélanger les goûts et les couleurs et c'était notre volonté.
Ça s'est créé en 2010, du coup, le collectif, c'est ça ?
Il s'est créé en 2010, et puis là, il est monté en pression, si je puis dire. Une belle étape franchie en 2013, avec la première distillation, pendant un week-end. Durant un week-end, 50 compagnies sont relayées pour faire le spectacle, et puis offrir de bons moments à pas loin de 5000 personnes dans le week-end, avec des gens à l'intérieur du bateau, des gens à l'extérieur du bateau, sous le chapiteau, du théâtre, de la musique actuelle, de la musique ancienne, du débat, du terroir. Et on est resté sur cette formule qu'on trouve gagnante.
Vous-même, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce collectif ?
Nora ?
Moi, c'est vraiment le côté une salle en centre-ville par les citoyens, pour les citoyens. Le projet du bateau, c'est pas une programmation qui vient d'un directeur artistique ou c'est pas une politique culturelle financée par la DRAC. C'est vraiment comment, en tant que citoyen, on anime notre ville et comment on se crée un lieu où on a envie de sortir et où, en plus, on peut aussi participer à nos futures sorties en y contribuant.
Votre rôle aujourd'hui à tous les deux au sein de Ohé, c'est quoi ?
Moi, je m'occupe je fais partie du labo communication. Je mets au service mes quelques savoir-faire de graphiste, et voilà.
Et moi, je ferai partie du futur labo vie coopérative. Et là, c'est plus, j'ai pas dit ce que je faisais dans la vie, je fais de l'accompagnement des structures de l'ESS. Donc, c'est comment penser la vie de cette coopérative-là, comment fonctionner à 1500, ce qui est quand même un défi assez sympa et qu'on va relever dans le labo vie coopérative.
J'allais vous demander justement combien de membres aujourd'hui. Il y a donc 1500...
1564 sociétaires.
Pour être précis.
Pour être précis et sans antisèche. et des sociétaires qui sont répartis en plusieurs catégories. Donc 1415 15 citoyens, 116 associations, 32 entreprises et une collectivité territoriale pour le moment. Mais on en a 4 qui sont en attente de pouvoir poser leur prise de capital.
Et pour qu'on se rende compte un peu, à la création, vraiment au tout début, il y avait combien de membres dans le collectif à peu près ?
Ah, c'est difficile de répondre. Il y a eu un noyau dur longtemps compté à 20 membres qui a vite grossi à 50, à 100 membres pour l'organisation de la première distillation. Et puis ça continue à monter. Moi, j'ai l'habitude de parler de l'aventure, non pas forcément en coopérative, en SIC ou en société ou en asso, mais en collectif. C'est réellement un collectif et c'est la vie d'un collectif. Après, on peut y mettre différents cadres, juridiques ou pas, mais ça reste un collectif.
Ok, l'idée déjà avec l'association, pour resituer, c'était vraiment de créer une communauté et un combat citoyen.
Je t'en prie, ouais,
exactement, et en fait, c'est encore et toujours un collectif. C'est plus un collectif sous forme associative, puisque l'association a disparu au profit de la coopérative, mais on reste avant tout un collectif de citoyens, d'associations, d'entreprises et de collectivités depuis peu. Donc voilà.
Très bien, et justement, donc ça fait 2 mois que c'est devenu une coopérative, une SCIC plus exactement. Qu'est-ce que c'est vraiment une SCIC ?
SCIC, c'est Société Coopérative d'Intérêt Collectif. C'est une nouvelle forme de SCOP. Donc avant, dans le monde des coopératives, il existait les coopératives ouvrières de production. Et donc, je crois que c'est la loi de 2004 qui crée la SCIC, coopérative dans laquelle il peut y avoir plusieurs natures de sociétaires. Et donc, au sein de la SCIC OE, on a les citoyens, on a les entreprises, on a les associations et on a les collectivités territoriales. Et ce qu'a voulu faire cette la loi de 2004 en instaurant les SIC, c'est dire aux collectivités territoriales, vous pouvez vous impliquer dans des projets citoyens, dans des projets d'économie sociale et solidaire, dans des projets entrepreneuriaux. C'est la nouveauté en fait de ces coopératives-là. Pour être SIC, il faut seulement 2 collèges différents, pas forcément des collectivités. Et nous, on a fait le choix de mettre les collectivités au sein du conseil d'administration.
Ce qui nous intéressait réellement, c'est d'impliquer les collectivités locales dans le projet, non pas par des subventions, mais sortir de ce modèle, une subvention à la clé tous les ans, et être un petit peu sous l'épée de Damoclès de savoir si on allait garder cette subvention là ou pas. Là, le but, c'était de construire avec elle, qu'elle rejoigne ce collectif pour qu'on construise ensemble, qu'elle prenne part au débat et qu'on avance tous ensemble.
Le changement de statut, comme j'ai dit, s'est fait il y a 2 mois. Il a été fait à l'unanimité, c'est important de le préciser, parce que c'est bien sur le nombre de membres qu'il peut y avoir sur le collectif d'avoir eu un choix à l'unanimité comme ça. Ça s'est pensé depuis longtemps, vous y pensez à changer de statut ou...
Ah, ça a été une forme juridique approchée et étudiée depuis les premières souscriptions. Après, on a affiné notre choix, on s'est fait accompagner aussi par l'Union nationale des SCOP. Pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est relativement complexe, si complexe que même les administrations ont du mal à suivre, en fait. Les lois sur l'ESS sont bien présentes, mais elles ont du mal à concrétiser leur organisation et faciliter des mises en place de coopératives de la sorte. Donc c'est un statut qui nous correspondait bien et qui nous permettait de sortir du schéma habituel.
Concrètement, pour vous, ça change quoi en interne ? Parce que ça reste quand même un collectif ?
Ça reste avant tout un collectif. Ça permet de professionnaliser un petit peu l'organisation, c'est-à-dire d'avoir un CA qui essaye de donner des directions, mais qui laisse au maximum les laboratoires déjà mis en place et les laboratoires qu'on va continuer de mettre en place pour faire vivre la distillerie, notre vision de la coopérative.
La forme coopérative, elle va surtout nous aider dans le projet entre guillemets entrepreneurial au sens noble du terme que porte OE, parce que pour aujourd'hui être gestionnaire d'une salle, pour être demain gestionnaire d'un café associatif, la forme entreprise reste la forme la plus classique. Alors après, penser une entreprise collective, penser une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc classique, mais se dire Non, on n'est pas juste une association avec des adhérents qui renouvellent ou pas leur adhésion. Là, les gens du collectif, ils ont pris une part sociale qui ne permettra pas de plus-value, il n'y aura pas de distribution de dividendes à la fin de l'année. Les gens ont investi économiquement, participent au capital. Donc c'est aussi dans l'engagement et l'engagement renforcé, en fait, du fait de ce nouveau statut.
L'organisation en interne, elle est faite en laboratoire. Ça, c'est venu avec l'ASKIC ou c'était déjà comme ça avant ?
Non, c'est comme ça depuis, en fait, depuis la première distillerie en 2013. Et c'est un fonctionnement qui a marché, parce qu'on a eu une belle réussite durant ce week-end-là et une belle réussite en amont d'organisation, de les idées qui fusaient, les échanges, les rencontres des gens qui venaient de tous horizons. Et c'était super intéressant, super enrichissant. Et ça a permis de passer un super bon moment, un bon week-end. On a vu plein de choses qu'on voudrait voir à l'intérieur maintenant.
Il y a combien de labos au total aujourd'hui ?
Là, on part sur une organisation à 5 labos. Si on peut rapidement les lister, j'ai mis un anti-sèche, on l'entend. Il y a l'administratif et financement. Là, ça va être plus l'organisation et le côté recherche de financement, le secrétariat, etc. La communication, communiquer ce beau projet à un peu plus loin que Tours maintenant. Je pense que beaucoup de Tourangeaux sont au courant. Je pense qu'il en reste encore à convaincre, mais puis je pense qu'il y a beaucoup de gens en dehors de Tours qui peuvent être intéressés. La vie coopérative, chère Nadia, qui va prendre part à ce labo. Les travaux, c'est une grosse année pour le labo travaux. Et un dernier labo sur la distillation et la coordination de tout ça. Je reviens rapidement sur le labo travaux. Le labo travaux, il existe depuis un moment. Il a été en sommeil dans les années un peu dites creuses, où on était un petit peu en voie de garage avec la mairie de l'époque. Aujourd'hui, le labo travaux en pleine ébullition. Il y a 5 architectes qui font partie du pool d'architectes choisis, plus des gens du collectif. Il y a un réel travail et de réels échanges. Et encore une fois, là, 5 architectes qui viennent d'horizons différents travaillent ensemble. Là aussi, on innove. Il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle de projets qui rassemblent comme ça 5 personnes différentes, 5 professionnels différents.
Peut-être ce qu'on peut préciser sur les labos, c'est qu'aujourd'hui, ouais, on est 1500 et c'est énorme de fonctionner à 1500. Donc l'idée des labos, c'est aussi d'avoir des thématiques dans lesquelles les gens sont plus sensibles à ce sujet-là qu'à un autre. La communication, pour certains, c'est important et les travaux, pour d'autres, c'est plus source d'implication et de motivation. C'est aussi pour se dire que le conseil d'administration n'est pas du tout hégémonique et qu'on garde cette notion de collectif. Donc en fait, toutes les décisions, toutes les propositions, elles se font dans les labos. Et les labos sont évidemment ouverts aux sociétaires, puisque c'est leur coopérative, mais elles sont aussi ouvertes aux bénévoles. C'est-à-dire que les sympathisants au projet, qui n'ont pas encore les moyens de prendre une part sociale ou sont peut-être pas encore prêts à prendre une part de capital, peuvent venir s'impliquer dans les labos et aussi construire le futur bateau et faire vivre le futur bateau. Sachant que ces labos, là, c'est des grands chapeaux. Et après, on peut aussi reconstituer au sein même des labos des petits groupes de travail. Donc c'est vraiment là où on attend les gens, où on a envie qu'il y ait le plus de monde possible pour qu'au sein du conseil d'administration, on ait juste à suivre les travaux de ces labos-là et de se dire les grandes décisions, elles ne seront pas prises par une petite poignée de sages, mais c'est vraiment le collectif qui construira son fonctionnement, qui construira les plans de la salle et le futur règlement intérieur de la salle.
Donc les gens, en fait, ou sociétés qui veulent vous rejoindre maintenant, ils choisissent dans quel labo ils veulent s'impliquer.
Tout ça, les gens, les particuliers, les sociétés, les administrations et aussi les compagnies, les artistes, les créateurs. C'est un lieu fait pour eux aussi. Il y a vraiment deux visions qu'on veut faire se rencontrer, c'est-à-dire le public qui a envie d'une salle dans le centre de Tours et les compagnies qui ont besoin de se faire voir, de proposer et de livrer leur création au public. Et les deux sont nécessaires dans OE. C'est-à-dire que les compagnies, les groupes de musique, les associations qui essaient de faire bouger le monde de la culture à Tours, sont plus que les bienvenus, c'est une salle pour eux aussi. Donc, et j'en profite au passage pour rappeler qu'il y a encore 5 de mémoire, 4 postes pour siéger. Non, 6 me dit
non. Non, il y a 4 places pour les compagnies et associations.
Oui, rafraîchis-moi la mémoire.
Et une place pour les collectivités, c'est qui ça pour voir.
Pour être à plein dans notre CA, et on a vraiment besoin d'eux pour faire avancer les choses.
Justement, comment ça se passe si on veut vous rejoindre même en tant que bénévole? On a contact avec vous?
On a mis en place des inscriptions aux différents labos sur le site internet ouedubateau.com. Chaque labo se réunira et relancera les personnes inscrites.
Peut-être juste préciser aussi, l'ensemble des sociétaires ne sont pas inscrits dans les labos et ce n'est pas une obligation d'être inscrit dans les labos. On a beaucoup de personnes qui ont souscrit au moment de la grande souscription du mois d'avril, c'est ça, qui ont fait des souscriptions de soutien et ce n'est pas du tout une obligation d'être dans les labos. Après, plus les personnes seront investies, plus on s'assurera aussi du fonctionnement démocratique et collectif.
Oui, c'est ça, on peut choisir de soutenir financièrement sans forcément, parce qu'on n'a pas forcément le temps de s'impliquer.
Bien sûr.
Encore plus dans l'actualité, il y a la signature du compromis, c'était au début du mois, on peut en savoir un peu plus, c'est une grande étape du coup pour le projet immobilier déjà.
C'était une étape attendue de très longue date. L'achat a été évoqué dès le début de l'aventure, abandonné au cours de l'histoire, en tout cas mise de côté au cours de l'histoire après le rachat de la salle par la CIMVIT. Mais oui, c'est la concrétisation. Ça sera plus la concrétisation quand ce sera vraiment la signature de l'acte d'achat réellement et pas du compromis. Mais c'est déjà
une grosse étape
et un pas qui fait vraiment plaisir.
Et au-delà du côté symbolique du compromis de vente, il y a aussi eu toute une négociation avec la CIMVIT qui s'est très bien passée, avec un prix à la base de vente qui a été diminué en fonction des demandes du collectif. Et ce qu'on a vu le 9 décembre, c'est que la CIMVIT a envie que ce projet aboutisse. Bon, ils ont aussi envie de vendre cette salle et de récupérer les sous. Mais en tout cas, ils ont été très soutenants en fait, dans la fin des négociations et ils ont entendu ce qu'on demandait.
Oui, ils n'ont pas juste attendu le prix, vous avez pu négocier avec eux.
Oui, et puis on n'a pas négocié, c'était pas une bataille de chiffonnier non plus, on est venu avec des éléments, c'est-à-dire qu'ils ont acheté il y a pas mal d'années une salle qui était déjà à l'époque plus aux normes, là elle ne l'est encore moins, elle n'est vraiment plus du tout aux normes, elle est vraiment handicapée et remplie de fantômes, comme dirait Luc, un de nos architectes. On a levé pas mal de problèmes sur cette salle, donc qui ne pouvait plus se vendre au prix initial. Et on a essayé de minimiser, de maximiser nos chances et de minimiser l'impact sur leur investissement. Mais bon, chacun voit midi à sa porte aussi. Faut être cohérent aussi par rapport à ça. On a essayé de faire baisser le prix, mais à sa juste valeur, vraiment.
On va tout de suite faire une deuxième pause musicale. On écoute Jungle Dreams de Toucan Toucan. Et alors, il y a eu la signature du compromis, mais c'est qu'un début.
Voilà, parce que signer un compromis de vente, c'est s'engager à acheter une salle. Ça ne veut pas dire qu'on l'a encore achetée. Donc là, on a déposé le permis de construire, parce que comme expliquait Kevin, quand on a acheté... le bateau n'est pas du tout en mesure d'accueillir qui que ce soit, ni n'importe quelle activité soit. Donc on a proposé des plans, un nouvel aménagement de salle, une salle qui donc sera à toutes les normes de sécurité, déjà dans un premier temps, d'accessibilité, puisque dans une salle pour tous, on pense aussi aux personnes à mobilité réduite. Donc là, il y aura un gros travail de fait là-dessus. Et aussi en termes d'insonorisation, puisque le bateau aujourd'hui, anciennement dans le quartier, se faisait un peu entendre. L'idée, c'est qu'il se fasse entendre le moins possible et qu'il dérange le moins possible les riverains. Donc voilà, il y a toute une partie de travaux qu'on imagine, qu'on a mis dans un joli dossier de permis de construire avec nos 5 architectes qui nous aident beaucoup. Et là, on attend maintenant que l'administration valide tout ça pour signer définitivement et acheter définitivement la salle, on espère, à la fin du printemps, au début de l'été.
On maîtrise plus trop là ces temps de... Ces temps administratifs, il faut qu'ils fassent leur job. On n'a pas de date butoir, ça se fera en son temps. Ça ne nous empêche pas, nous, notre côté, de continuer à bosser et d'avancer. Le 16 mars, par exemple, on organise notre prochaine AG qui vient compléter le CA avec les collectivités locales et les compagnies. J'insiste sur ce besoin réel de faire venir encore plus de compagnies de théâtre, de plasticiens, j'en passe, les faire s'impliquer et dans le collectif et pourquoi pas dans le CA, on a besoin d'eux aussi dans le CA.
Il y a déjà un nom pour cette nouvelle salle ? C'est déjà dans les cartons ?
Le nom a été un long débat en interne, en externe aussi, donc on a décidé de proposer un sondage pour tâter un petit peu le terrain, savoir ce que les gens voulaient. Un nouveau nom, quel nouveau nom ? Pourquoi pas l'appeler le bateau Yves ? Pourquoi pas l'appeler le nouveau bateau ? Pourquoi pas l'appeler Tartampion ? Pourquoi la parler ? Voilà, il y a la balle est pas dans un camp précis. On laisse ce sondage un petit peu faire bouger les lignes.
Voilà, on sera sur un principe démocratique pour le choix déjà les propositions de nom et ensuite le vote on retiendra quelques propositions, elles seront soumises aux sociétaires. Donc on ne sait pas trop ce qu'il en sera et puis on n'a pas trop envie de se positionner en tout cas là-dessus. On laisse ça à l'ensemble de la coopérative.
Sur la salle en elle-même, évidemment, il y a tous les travaux de mise à niveau technique, on l'a bien compris, et l'aménagement, vous allez beaucoup changer.
Alors le projet architectural, il est en ligne, vous pouvez le voir depuis plusieurs mois sur le site internet. On va essayer de mettre petite animation, enfin en tout cas quelque chose de plus parlant, de plus joli et de plus valorisant du travail des archis. Le but, c'est de laisser une place plus grande pour l'accès handicapé, des langes handicapées, faire avancer cette façade pour gagner de la place, pour y insérer un café culturel. En fait, le nouveau bateau ivre sera deux salles en une, un café culturel ouvert le jour jusqu'au soir et la salle de spectacle dans un premier temps en location, mais qui permet de proposer des choses intéressantes dans la salle et dans le café culturel. Le café culturel, il y aura un micro d'ouvert, il y aura des instruments, il y aura une place pour s'exprimer et puis la salle pour y faire quelque chose de plus construit.
Ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est que les architectes ont travaillé dans le sens d'une salle qui s'adapte au spectacle et pas d'un spectacle qui s'adapte à la salle. Donc l'espace sera complètement modulable et ce sera vraiment les fiches techniques des différentes compagnies et associations qui viendront jouer dans la salle qui déterminera même la localisation du public en fait. On a pensé à un plateau où on peut brancher de tous les côtés, où il n'y a pas d'espace scénique défini. C'est vraiment le besoin du spectacle, le besoin de la représentation, de la performance, quelle que soit la forme artistique qui se produira, auquel la salle devra répondre. La salle répondra aux besoins des artistes.
Et au niveau de la jauge ?
Là, on part sur une jauge de 300 personnes. Classiquement avec des dérogations possibles, mais 300 personnes pour écouter de la musique, pour voir de la danse, pour voir du théâtre, pour voir un film, pour débattre, pour plein de choses différentes. Et à côté de ça, donc ça c'est la salle, mais j'insiste aussi sur la dimension café culturel. Le café culturel, il aura le mérite d'être ouvert du matin au soir, en tout cas la plus grande amplitude horaire possible, selon nos moyens, pour pouvoir proposer un lieu, pour boire un café ou un jus local ou un vin local, mais pour pouvoir échanger, pour pouvoir tester. J'ai des copains qui veulent faire un petit bœuf, pourquoi pas. Je suis en train d'écrire une petite pièce, je teste un morceau, je suis slammer, je viens me confronter, etc., etc. Un espace ouvert, réellement.
Mais parce que c'est pas qu'un projet immobilier, c'est aussi un projet artistique. Et justement, le café ouvert, c'est totalement une nouveauté pour le bateau, en tout cas.
Oui, c'est un type de lieu qui existe ailleurs. C'est une envie, une traduction aussi des envies de pas mal d'artistes qui nous ont rejoints. Et puis du public qui est friand aussi d'un jour voir un spectacle pour enfants, le lendemain voir un slammer et le surlendemain une pièce de théâtre. Donc sur un seul lieu qui est aussi aux frontières de plusieurs quartiers, sera échappé à personne, que ce soit quartier de la Gare, de Velpeau ou du Sanitas. On est aux frontières de pas mal de carcans qui existent aussi. À nous d'essayer de faire sauter tout ça, quoi.
L'idée, c'est une scène ouverte en continuité, en fait, en continu.
Tout à fait, ouais, ouais.
Et aussi, au niveau des arts, l'idée, c'est aussi de... J'ai dit deux fois l'idée, c'est de mettre tous les arts un peu sur un même pied d'égalité, c'est ça, si j'ai bien compris le projet artistique cette fois.
C'est vraiment laisser la place aux associations et aux compagnies pour se saisir de cette salle. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça fonctionnera, on ne sait pas encore ce qu'il y a dans la programmation, puisque ça va être les compagnies et associations sociétaires du bateau qui créeront elles-mêmes leur façon d'utiliser la salle. Et une fois qu'elles auront loué la salle, elles y feront ce qu'elles voudront. Évidemment, vu que c'est ouvert et qu'il n'y a pas de ligne, on espère des rencontres pluridisciplinaires, on espère une grande diversité. On le voit déjà dans les assos sociétaires, entre des groupes plus musique actuelle, des groupes de musique ancienne, du théâtre contemporain, du théâtre jeune public. Il y a déjà dans la diversité des sociétaires une diversité de formes artistiques. Et l'idée, c'est que cette salle, moi aussi j'ai dit beaucoup de fois l'idée, le propos, c'est que cette salle puisse se rendre, s'adapter à toutes les propositions artistiques qui seront formulées.
Et puis le but d'ouvrir à toutes les formes d'art, ça donne une programmation plus riche et plus variée, forcément.
C'est ce qu'on espère, et au-delà de la programmation la plus variée, c'est un peu ce que Kevin était en train de dire, c'est aussi un public divers. Donc dans les enjeux aussi, quand on dit association sociétaire, il n'y a pas que forcément des associations artistiques. On espère pouvoir travailler avec les différents acteurs du Sanitas, par exemple, en imaginant que les jeunes du quartier puissent venir découvrir aussi bien techniquement que artistiquement la vie d'une salle et s'impliquer, et que leurs parents, capillarité, viennent aussi fréquenter cette salle-là, et qu'il y ait une vraie diversité aussi dans son public.
La programmation, justement, c'est un peu compliqué, du coup, de comprendre vraiment qui s'en chargera, qui... Ça ne sera pas une personne.
Non, mais tout ça, c'est le labo, c'est le travail des labos. Les labos actuels sont... Là, c'est plus dans la construction. Demain, les labos de la distillerie vont prendre plus de place, c'est-à-dire le labo théâtre, le labo musique actuelle, le labo débat, le labo terroir, etc. Tous ces labos-là qui sont en sommeil et qui sont réveillés lorsqu'il y a une manifestation, que ce soit notre prochaine vente aux enchères, par exemple, là, à la rentrée, on a une vente aux enchères d'organiser, le labo terroir va se remettre en marche, tout ça va se remettre en marche. Quand la salle sera ouverte, ces labos-là seront éveillés jour et nuit pour créer cette offre-là.
Ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est qu'il y a une volonté là sur cette année 2017 de construire le fonctionnement, donc un règlement intérieur. Comment est-ce qu'on loue la salle? Comment est-ce qu'on décide quand, sur le même week-end, plusieurs assos veulent louer la salle? Donc voilà, poser des règles de fonctionnement. Et après, une fois que ces règles sont posées, c'est les associations qui viennent s'investir et qui viennent remplir le programme, en fait. Donc il n'y aura pas, de programmateur dans cette salle-là. Les seules choses que nous, on aura comme élément et où le labo suivra, c'est que le règlement intérieur soit respecté. Après... peut-être que deux week-ends de suite, on aura de la musique traditionnelle, et puis qu'après, pendant trois week-ends, ce sera du théâtre, ou peut-être qu'en fait, il y aura plein de propositions différentes, parce que le laboratoire aura imposé dans le règlement intérieur, entre guillemets, des disciplines différentes. Ça, on ne le sait pas du tout, et on appelle vivement en fait, toutes les personnes intéressées avec des idées à aller s'investir dans les labos pour justement en faire part, et qu'on ait un fonctionnement innovant et qui corresponde à tout le monde, et qui favorise la réussite de la salle.
D'où la nécessité de voir venir à nous toutes les compagnies, toutes les assos qui peuvent programmer des gens. On a vraiment besoin d'eux et de confronter nos envies et construire ensemble.
Et dans l'idéal, quand est-ce qu'on pourra découvrir les premiers projets dans ce nouveau bateau ?
On va s'atteler déjà aux travaux, réellement, les coups de pelle et les coups de pioche en premier lieu, et puis on va avancer, avant de courir, on va apprendre à marcher, et puis on va avancer petit à petit.
Puis peut-être qu'on pourra faire une première musique à coups de pelle et coups de
pioche,
oui,
voilà,
et puis des premières performances dansées en déplaçant des gravats, et puis après on verra.
Très bien, moi je vais vous remercier tous les deux, Kevin et Nora, d'être venus dans l'émission ce soir pour nous parler de la récente Kick Away.
Merci à vous.
Merci pour l'invitation.